Radio Campus.
C'est 883,
la radio underground.
Will change your life.
Que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
Quand on a commencé à jouer sur instruments d'époque, il n'y avait pas beaucoup d'époques. Pendant que des orchestres se spécialisent en effet dans le jeu sur instruments baroques et d'autres sur instruments romantiques, les recherches découvrent certaines lacunes en termes de période. Et alors que les parties de hautbois, de l'opéra Attis, de Lully sont une page d'anthologie pour l'instrument, elles viennent d'une époque pour laquelle on connaît beaucoup moins la facture des hautbois. Non seulement les hautbois des années 1670 étaient bien différents des hautbois baroques consacrés du début du XVIIIe siècle, sans compter que ce qu'on savait des hautbois baroques, depuis qu'on s'est remis à jouer de la musique baroque, supposait des adaptations de doigté qui ont fini par infléchir et biaiser les copies d'anciens dédiées aux bois. Pour mieux saisir l'enchevêtrement des problèmes qui se posent à qui veut retrouver le son des hautbois d'Attis de Lully, Métaclassique vous propose d'entendre la chercheuse Lola Soulier, mais aussi les hautboïstes Neuven Le Sage, Annabelle Guibaud et Christophe Lewandowski, mais encore le facteur de hautbois Olivier Clémence, ainsi que le musicologue Benoît Dradvitki, directeur artistique du Centre de musique baroque de Versailles, où cette émission a été intégralement enregistrée.
Donc alors on est de retour sur les roseaux de pour faire une ange de taille de hautbois. C'est Christophe qui nous indique sa méthode. Et t'as remarqué, Christophe, est-ce que tu fais attention au fait que le roseau, quand tu le laisses longtemps dans l'eau, mais je sais pas si tu le laisses longtemps une fois gougé, si le roseau coule ou pas, en fonction du temps de trempage, bah, qu'il se retrouve au fond de ton récipient d'eau ou qu'il flotte.
Bon, c'est ça. Si le fond, ça veut dire que ça fait un peu longtemps.
Ouais. Parce que là, par exemple, le roseau qu'on a gougé tout à l'heure, il n'a pas du tout coulé.
Ouais, non, il était pas, il était un peu sec, oui.
D'accord, je pense que c'est juste une histoire de temps de trempage. Parce que théoriquement, ça devrait être lié à la densité, en fait, du roseau. Le fait qu'il coule ou pas, oui. Plus dense, il va couler.
Mais j'avais pas. Sur tous les roseaux que j'ai un peu laissés trop longtemps,
ils finissent par couler.
Ils finissent par couler.
Bah, oui, ça, on est d'accord. Ils sont gorgés d'eau, donc ouais. Ils finissent par couler. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour un même temps de trempage, oui. T'en es certain qu'ils coulent et pas d'autres.
D'accord. Bah, en fait, oui, c'est le test de Jean-Marie Heinrich, c'est avec de l'eau.
Très bien. Ouais. Et du coup, à quoi ça?
Ben, celui qui remonte tout de suite est plus dense. Enfin, suivant le temps qu'il met à remonter, il est plus ou moins dense.
À remonter?
Ouais.
Normalement, il ne remonte pas s'il est gorgé d'eau. C'est ça que je trouve étonnant.
Non, c'est fait en une seconde. En plus, je crois. Enfin, on regarde.
Oui, ça, c'est une théorie.
C'est exactement la même chose.
Non, c'est pas la même chose, oui. Mais il y a un rapport de ça. Ouais. Tu le mets dans l'eau et tu vois comment il...
Oui, la vitesse avec laquelle il remonte. C'est ça qui fait Jean-Marie. C'est ça.
Et c'est de plier le mien.
D'accord, ok. Et donc là, en épaisseur, t'as atteint quoi sur les côtés, en fait, Christophe?
Là, c'était toujours, bords, hein, c'est toujours un peu trop épais.
Mais tu vises quoi pour qu'on puisse prendre en note ce qu'on vise?
Ici, je vais voir ce que ça donne.
Ce qui est apparu, c'est que dans les traités anciens de hautbois, clarinette et basson 18e et 19e, en fait, les grands instrumentistes parlent de la récolte du roseau et de la qualité du roseau. Or, c'est quelque chose qui, dans notre monde moderne, quand on est instrumentiste, auquel on n'a pas réellement accès.
C'est-à-dire qu'on ne va pas soi-même chercher les roseaux. Exactement. Que l'on va avoir dans la bouche après.
Exactement, on ne va pas soi-même récolter les roseaux. Ça se faisait encore dans les années 50 de manière assez naturelle. Par exemple, le professeur de hautbois de Maurisbourg à Avignon emmenait ses élèves sur l'île de la Barthelasse récolter le roseau. Je ne sais pas si aujourd'hui au conservatoire d'Avignon ça se ferait d'aller avec son professeur récolter le roseau, mais c'est quelque chose qui est en fait fondamental, très important, très réjouissant.
C'est aussi important comment ça s'applique.
Alors par contre, qui est vraiment du domaine des botanistes, des ethnobotanistes, et en travaillant sur le roseau, je me suis rapprochée des écrits des grands ethnobotanistes comme Pierre Liotagui, mais aussi le travail de Georges Métellier, Bernadette Lisée. Et c'est en fait une réflexion sur notre relation, la relation à la plante. Et au savoir qui lui sont liés. Et il y a eu une perte de savoir et une perte de relation. Et c'est en allant en Arménie, où d'une part la facture des anges de Doudou, qui sont des anges doubles en Arondodonax comme le hautbois, n'a jamais été mécanisée ni industrialisée, mais aussi où beaucoup d'Arméniens ont gardé le lien à la plante, mais de manière, je dirais, vraiment évidente. On va cueillir des plantes dans la montagne. Il y a encore un savoir qui est, comme dans nos sociétés, en voie de, quand même, de déclin. Mais c'est encore une évidence. Et donc, le maître d'ange avec lequel je travaille en particulier a un lien très fort au roseau. Et un bon sens aussi par rapport à la
nature. Celui avec qui vous avez travaillé en Arménie sur, voilà. Sur les doudouks.
Voilà.
Mais parce que je m'interroge sur la façon dont votre travail vous a petit à petit amené à accueillir d'autres compétences que celles qui vous ont amené à vous poser ces questions, c'est-à-dire des compétences de musicologie, à aller vers la physique et la psychoacoustique pour calculer comment un cône renvoie le son, jusqu'à lire de l'ethnobotanique. Comment vous lisez ces écrits d'ethnobotanique en tant que musicologue?
Je suis émerveillée parce qu'en fait, ils ont fait tout ce travail. Moi, j'y viens, voilà, vraiment par ce tout petit
bout du roseau.
Bout du roseau. Je me pose tout d'un coup des questions, en me disant mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi on a perdu? Ça remonte un petit peu aux années 1920. Mais pourquoi on n'ose plus cueillir la plante? Pourquoi on la comprend plus? Pourquoi c'est pas vivant? Et puis alors là, si on ouvre un ouvrage d'ethnobotanique, ben on a un travail extraordinaire de gens qui se sont posé la question il y a déjà beaucoup d'années, qui ont fait des collectes, qui ont été dans les campagnes pour interroger les personnes âgées sur la connaissance qu'ils avaient des plantes.
Mais c'est quoi comprendre un roseau?
Ah, c'est magique. C'est rentrer dans un univers. C'est voir là où on ne voyait pas. C'est-à-dire que quand j'ai rencontré le maître d'ange arménien, Ovanès, on a regardé ensemble des roseaux, des canons de roseaux, qu'on utilise après, les gouger, les monter sous forme d'ange. Et moi, je voyais juste des roseaux, je voyais rien, pour tout vous dire. Et lui voyait des choses incroyables, il les faisait teinter dans sa main, sur la table, il les regardait, il me demandait dans quel sens a poussé le roseau, et donc il m'a ouvert à un univers qui est de l'observation, très minutieuse, et je me suis rendu compte avec lui qu'il fallait sur le terrain, qu'il fallait voir le roseau pousser, qu'il fallait le voir même, il me le montre à chaque fois que je vais le voir, il a planté un roseau chez lui. Maintenant, j'ai aussi des roseaux plantés chez moi. Les observer pousser, comprendre la plante. Après, j'ai échangé aussi avec des botanistes, donc pour comprendre ce qui se passe au niveau du chaume, quand il fait sa fleur, etc. Enfin, on rentre dans l'univers du vivant. Et qui est un univers, il faut être en dialogue avec cet univers, à mon avis, pour arriver vraiment à maîtriser ce qu'on fait. La même chose aussi avec les outils. C'est en faisant refaire des gouges anciennes d'après les méthodes que j'ai découvert quand même aussi toute la dimension, l'importance de l'acier. Quel acier? Comment il a été travaillé? L'importance du geste. Et c'est des... Alors, c'est compliqué en tant que musicien d'acquérir ces savoirs aujourd'hui parce qu'avant, on pouvait les acquérir à la maison. Les grands oboïstes du 18e, comme Joseph-François Garnier, il était du Vaucluse, de Loris, son père était cordonnier. Et c'était donc souvent, les musiciens étaient dans un milieu d'artisans et ils l'apprenaient au quotidien. De même qu'autrefois, on taillait sa plume pour écrire. Et donc, le fait de tailler son hanche était associé au taillage de la plume. C'est un geste que les musiciens faisaient pour écrire. Donc, on avait des compétences qui étaient acquises dès l'enfance au quotidien que nous n'avons pas. Donc c'est très difficile de réacquérir tout ça, mais c'est passionnant, ça fait rencontrer des artisans, des maîtres d'ange arméniens, c'est extrêmement enrichissant. Et c'est à ce prix-là, je dirais, qu'on pourra aller vers une forme de maîtrise.
Thierry a fait un 4-22 partout. Ça c'est vos autres Thierry? Oui. C'est 92 partout.
92 partout.
Ouais. Donc je pense que c'est bien que ça.
Il a bougé droit en fait.
Je pense que c'est bien que ça.
Par exemple, on pourrait partir de ça. Oui, je pense que
ça passe un peu moins d'un mètre. Je pense c'est bien que ça passe moins d'un mètre. Je pense c'est bien que ça passe moins d'un mètre.
Oui, c'est ça, qu'on soit quand même en dessous des 11 mètres.
Parce qu'il faut... On passe en ouverture ici. Donc là, c'est quand même bien, bien plus large. Donc ce roseau est plus épais. Salut. Je ne comprends pas... Donc même si le roseau est épais, vu qu'il a plus le bassin, le cercle est plus large, donc il y a moins d'angle. Donc la fente qui reste blanche est moins probable. Donc ici, cette courbure est plus importante parce que le cercle est plus petit. Donc la fente sera plus exposée.
Contrairement à beaucoup de hautboïstes qui ont commencé par d'abord apprendre la musique en étudiant le hautbois moderne et ensuite reculant dans le temps pour découvrir les instruments plus anciens. Moi, j'ai commencé avec les instruments plus anciens, donc les hautbois du 14e, 15e siècle, qu'on appelait chalmi, bombard, donc avec des techniques de fabrication d'anches et de grattage assez spécifiques. Et après, j'ai remonté le temps pour arriver finalement à l'époque baroque et découvrir les instruments baroques.
Pour vous, un instrument de 1680, c'est super moderne.
C'est très moderne, exactement. Et surtout, la découverte que j'ai pu avoir de ces instruments s'est faite un peu finalement à la manière dont les instruments ont probablement évolué, ont forcément évolué à l'époque. C'est-à-dire qu'on est passé par différentes étapes et on est arrivé au bois baroque. Et en tout cas, dans ma vision des choses et dans ma pratique, c'est comme ça que les choses se sont faites. Et donc, c'est un projet, évidemment, qui me parle beaucoup parce que ces recherches, je les fais déjà avec d'autres collègues aussi qui sont très intéressés par ces pratiques. Je les fais déjà très personnellement. Et c'est vrai que ce projet qui a un projet de grande ampleur nous permet en tant que musiciens que ce soit un grand terrain de jeu et de pratique et d'expérience.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer à quel point c'est si important de savoir gratter une anche quand on veut jouer du hautbois ? Parce que c'est pas forcément intuitif.
Alors, alors si on sait pas gratter d'anche, on peut pas jouer de hautbois. Ça, c'est sûr.
Bon, on peut en acheter.
Ah oui, on peut en acheter, c'est vrai.
Mais c'est moins bien ?
Alors, c'est la particularité quand même de nos instruments, c'est que notre rôle aussi en tant que musicien, en tant que hautboïste, c'est déjà de se procurer l'instrument, mais surtout de le faire fonctionner. Donc on a vraiment un rôle de chercheur et aussi un rôle de facteur pour faire en sorte que l'instrument sonne et chante au plus près de ce qu'on imagine. Et c'est vrai que plus on recule dans le temps et dans l'histoire de la musique, moins les instruments sont homogènes, moins les instruments sont uniformes, plus les instruments sont uniques. Et c'est vrai que par ces recherches et par la pratique du grattage et de la confection de l'anche, qui est aussi très personnelle, on va essayer avec chaque instrument d'aller au cœur de l'instrument, au cœur du son, et d'essayer d'être le plus possible en adéquation avec l'instrument. Et en fait, c'est assez intéressant c'est même très intéressant, c'est que quand on pousse la recherche autour de la fabrication du matériel et du grattage de l'anche assez loin et en accord avec l'instrument, on rentre dans une sorte de dialogue avec l'instrument, l'instrument résonne, l'instrument nous répond, et c'est aussi, je trouve, si on écoute bien l'instrument, c'est lui aussi qui va nous guider vers quel type de grattage on adopte, vers quelle fabrication on s'oriente.
Ça dépend de quoi tu pars. Si tu pars d'une très grosse épaisseur, bien sûr, c'est du gros œuvre. Mais si tu pars d'un roseau de 70 et que tu veux arriver à un intérieur de 50, ça se fait très vite.
On part de 120 pour arriver à 75. Quoi.
Tu parles de quoi ? De chalmi ?
Un roseau de chalmi, oui.
Ah oui, d'accord. Oui, ça, c'est
à 80, enfin. Mmh. 80, la dernière.
Ouais.
D'où la théorie du trempage long. pour arriver à
ouais, pour enlever tout ça. Ouais.
Parce que c'est un très bon outil qui fait un très beau copeau. Bah,
oui,
t'as pas du tout besoin d'avoir un roseau.
Parce que forcément, on va appuyer un petit peu.
Pour la forme, tu veux.
Non, juste pour protéger de. Si jamais on appuie, on serre avec les, mmh. les doigts.
Du public. C'est pour ça qu'il y a aussi cette technique donc de donner la forme à plat. Avant, il y en a encore des taillanges à plat et le taillange de brode était à plat. Et donc, la technique de brode à la main, c'est de donner la forme de la navette, on peut appeler ça une petite navette, à plat.
Mais du coup, c'est même pas si pour la symétrie.
Complètement, ça marche. Ça, ouais. Je peux vous le montrer, ça, je le fais comme ça.
Je veux dire, c'est moins précis, c'est-à-dire que tu as plus de chances de pas avoir le même profil.
Non, non. C'est une habitude. Ouais. Après, quand tu le plies, tu peux légèrement limer.
Oui, tu veux dire, c'est la forme qui est. En fait, tu découpes autour, c'est ça
ben, ce qui est génial, c'est que tu c'est que t'es à plat, donc tu n'as pas les deux lamelles pliées qui résistent.
Lame a changé.
Que tu vas écraser.
Il y a sur numéro 4, c'est la taille de ce trou-là. Soit 4, soit l'autre, mais j'ai aussi un autre. Il y a soit ce système-là, soit ce système-là avec des
ah oui. comme ça. On s'est habitué aussi à plier parce qu'on a un taillant, je crois que tu le mets et puis tu fais tchap tchap.
Mmh. Ouais. Moi, vous voyez, si je fais complètement à la main, j'aime bien mettre des points de repère. Ça veut dire que le milieu, ouais, parce que c'est ça qui nous intéresse le plus, et le premier ligature qui était là. Parce que oui, dès qu'on commence, je ne sais pas si vous faites ça sur une forme ou pas, la forme d'anche.
Non, moi je la fais à la main.
À la main, oui. Donc on, chacun ça fait son habitude. Hein. C'est juste déroutant que quand on commence, quand on va un peu trop sur un côté.
Christophe Lewandowski, vous êtes bassoniste.
Oui, à la base, oui.
Oui. Et alors, qu'est-ce que vous faites dans un projet lié au bois comme ça?
Ce que j'ai été demandé, je suis gracieux d'être demandé de jouer de la taille au bois.
Oui.
Parce que c'est vrai que c'est un instrument que je pratique depuis déjà quelques années.
Mais c'est quoi la taille de hautbois?
La taille de hautbois, c'est une taille différente que le hautbois qu'on connaît tous. Donc, c'est.
Et c'est pour ça que les hautboistes ne le jouent pas et qu'ils refilent cette taille de hautbois aux bassotistes.
Ça, c'est un sujet aussi. C'est pas complètement faux. Oui. C'est un petit peu comme le cas du cornet ténor.
Oui.
Donc, cornet à bouquin ténor, qui est un instrument considéré par beaucoup disgracieux parce que. Et c'est vrai qu'il est peut-être moins flatteur pour un grand soliste, mais dans l'esprit de musique en équipe, de musique ouais. de chambre, c'est extrêmement important. Les voix intermédiaires, comme le trombone ténor, oui, l'instrument peut-être parfait, qu'il n'a pas dû beaucoup évoluer à travers les âges, le prouve. Donc la taille de voix, oui, c'est dans la musique française, c'est une voix, on peut dire, voix instrumentale qui se place entre celle des quintes et des hautes contres. Et qui, ici, dans la famille d'hautbois, est représenté par un hautbois droit. Donc, on peut dire en anglais, on parle du hautbois ténor, donc ténor hautbois.
Oui.
Je pense que c'est quand même l'ancêtre plus ou moins direct du cor anglais qu'on voit aujourd'hui à l'orchestre.
C'est-à-dire que c'est un hautbois qui est un peu rallongé par le bas.
Oui, c'est un hautbois qui joue la quinte, une quinte plus bas qu'un hautbois qu'on connaît.
Mais qui ressemble quand même beaucoup, sauf qu'il est plus long, quoi.
Ah oui, c'est tout à fait. Ouais,
mais alors, donc, cette taille de hautbois, on peut dire, est davantage ancêtre du basson qu'ancêtre du cor anglais, par exemple?
Non, c'est tout à fait la famille de hautbois, du côté hautbois qu'on connaît aujourd'hui.
Ok.
Et c'est vrai que c'est une intéressante question, parce que c'est vrai qu'on est aujourd'hui très standardisé, on se dit basson, hautbois. Pendant qu'à l'époque, en France, le basson, c'est la basse des hautbois.
C'est-à-dire que pour les Français de l'époque, c'est le même instrument.
Voilà, c'est la basse des hautbois, c'est le hautbois basse.
Ouais.
C'est un basson, contrairement à la basse de Cromorn, l'instrument qui est utilisé dans ce projet, qui est donc la vraie basse des hautbois, qui est donc un instrument tout droit, qui n'est pas plié. Le basson, fagot était donc plié en deux pour la question de mobilité, de facilité.
Nous la terre des jours de mes jours de sorcellerie.
Neven le Sage, qu'est-ce que ça vous fait quand vous écoutez les hautbois de la version d'Atis de 1987?
Ah, eh ben, je trouve que tous les gens qui ont joué dans le pupitre à cette époque-là, je leur tire mon chapeau parce que eux devaient défricher déjà un énorme chantier qui était celui de réapprivoiser un instrument qui avait été absent des pratiques pendant des centaines d'années, en fait. Hein.
Oui. Et un répertoire qu'on
a. Et un répertoire, voilà. Et je crois que leur travail a été exemplaire. Et je sais même quelles ont été, enfin, par plusieurs personnes qui étaient dans l'orchestre en 87. J'ai su qu'ils s'étaient déjà posé des questions fondamentales. Je sais par exemple que William Christie avait demandé à ses oboïstes s'ils pouvaient réfléchir au type d'instrument qu'il faudrait utiliser dans l'idéal pour Atis. Et je sais qu'à ce moment-là, ils ont manqué de temps et ils n'ont pas pu aller au bout d'une démarche qu'aujourd'hui, nous, on est en train d'accomplir. Mais c'est très beau, en fait. C'est un passage de relais. Mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque, ils avaient eu déjà tellement de choses à résoudre que c'était une sorte de pierre fondatrice sur laquelle nous-mêmes, en fait, on a pu... Enfin, voilà, ils ont créé une base depuis laquelle nous-mêmes, aujourd'hui, nous pouvons aller plus loin. Mais sans cette base, peut-être qu'on ne serait pas au quart ou à la moitié de ce qu'on fait aujourd'hui.
Parce qu'il y avait des réponses qui avaient été données à partir des années 1950, avec des premiers hautbois baroques qui avaient été copiés, mais comme on avait pu.
Oui, et c'était très marginal. Si vous me parlez de 1950, on est dans une communauté minuscule, pas une seule classe de hautbois baroque en Europe. Enfin, on est dans un autre monde, c'est-à-dire on est dans le monde de quelques personnes qui étaient passionnées et qui ont vraiment été, pour le coup, les pionniers dans le sens des premiers. Et ensuite, si on parle des années 80, on a déjà, dans les années 80, une classe de hautbois baroque à La Haye et dans d'autres villes européennes. La possibilité d'apprendre le hautbois, mais c'était très neuf à l'époque, hein, les années 80, c'est vraiment le tout début de l'histoire de la possibilité d'apprendre le hautbois dans les grandes écoles, dans les grands conservatoires. Et donc, il faut savoir qu'à l'époque, la plupart des gens peuvent être aussi, dans un sens, considérés comme des pionniers. Il faudrait reprendre la liste exacte des gens qui ont joué dans Atis en 87, mais je crois que c'est tous des gens qui ont un parcours exemplaire de par tout ce qu'ils ont dû défricher pour arriver à ce résultat qui était déjà très satisfaisant.
Benoît Vicky.
Alors aujourd'hui, on a tendance à dire que le renouveau baroque en France, c'est Atis 1987.
C'est-à-dire que c'est vraiment une date dans l'histoire du renouveau.
Alors, c'est une date, et c'est ce qu'on dit aujourd'hui, c'est quand même très injuste. Parce qu'en fait, le renouveau baroque a commencé avant, et dès le tout début des années 80, on a eu Hervègue qui a fait Armide, je crois en 83 déjà. On a eu Gardiner qui a fait Scylla et Glaucus, les Boréades en 83, 85 aussi. Notamment à l'Opéra de Lyon, il y avait une grosse activité autour du baroque. Donc en fait, Atis, je pense que c'est, moi je dirais que c'est le couronnement de la toute première vague du renouveau baroque en France. Et en fait, c'est fondateur parce que là, il y a eu un pivot. Et il y a eu une prise de conscience que c'était pas seulement s'intéresser au répertoire, pas seulement choisir certains types de chanteurs, pas seulement essayer de virer le vibrato ou le legato, mais qu'il y avait aussi d'autres démarches et d'autres questions à se poser. Et je pense qu'Atis, c'est ce moment-là, c'est cette bascule-là.
C'est aussi une bascule musicologique au sens où on a toutes les questions qui arrivent et aussi les questions d'organologie.
Oui, alors effectivement, il y a eu un environnement de chercheurs à ce moment-là, et puis il y avait surtout Philippe Bossan qui a sorti son Vous avez dit baroque et qui a fait beaucoup de conférences. Enfin, il avait comme déjà créé le centre, je ne sais plus comment ça s'appelait, le centre pour les spectacles, etc. Mais je crois que c'est dès 82 ou 83. Donc en fait, il y avait quand même une antériorité. Mais 87, c'est aussi la création du centre de musique baroque de Versailles. Alors les deux événements, Atis et le CMBV, ne sont pas liés structurellement, mais c'est quand même assez
une sorte
de se dire
voilà
ce qu'il y a eu à un moment, ce package. Et donc il y a eu un geste fort, j'allais dire, de l'État, parce que Atis s'est programmé à l'Opéra Comique, mais en fait qui était à l'époque géré par l'Opéra de Paris, donc c'est une programmation Opéra de Paris. Donc pour la France de l'époque, je trouve que c'est un geste fort que l'Opéra de Paris programme du Lully et crée un centre de musique baroque à Versailles, avec donc des aspects d'édition, de recherche, de programmation. Ça devait être des années fantastiques. Moi, j'étais trop jeune, mais ça devait être fantastique.
Alors, quels étaient les hautbois qu'on entendait dans cette version de 87?
Je n'en ai aucune idée. On a le résultat sonore, mais les gens qui y ont participé ne sont plus tous là ou plus tous en état de témoigner ou ne se souviennent pas exactement de comment les choses ont été montées. Donc aujourd'hui, on ne sait pas quel a été vraiment le processus musicologique et musical. Ce que je peux vous dire, c'est que... Et il faut le comprendre, et je ne dis pas ça, ce n'est pas du tout une attaque, mais encore aujourd'hui, les baroqueux ont à charge de valoriser un répertoire qui va de 1600 à 1800, italien, allemand, français,
avec
etc.
des mutations voilà. esthétiques énormes.
Et donc, ouais. on ne peut pas demander à tous les violonistes d'avoir 10 violons dans 10 diapasons avec 10 réglages et 10 types de cordes différents et 10 archets différents, et à tous les oboïstes d'avoir le bon hautbois de Purcell, le bon hautbois de Haydn, le bon hautbois de... Donc, malheureusement, aujourd'hui encore, on est obligé de standardiser les choses. Et j'ai un collègue qui disait dans une conférence récente, en fait, on a banni le 442 absolu pour y mettre à la place un 415 absolu qui, en fait, est tout aussi déplacé. Et donc, ouais. finalement, la première révolution baroque, elle a chassé des habitudes, des codes, des conceptions, mais elle a obligatoirement mis à la place d'autres standards qui sont, qui sont pas les bons pour certaines choses. Donc, a-t-on les bons violons, les bons bois, les bonnes flûtes pour tous les répertoires ? La réponse est clairement non.
Oui, c'est de même quand on dit sur instrument d'époque, sur instrument moderne, on a l'impression qu'il n'y a eu que l'époque et le moderne. Alors, il se trouve qu'il y a eu plusieurs époques. Entre 1600 et 1800, il y a eu combien de types de hautbois ?
Entre 1600 et 1800, si on remonte à 1600, là, ça va chercher
ça fait vraiment
plus
beaucoup.
Loin que ce que je sais. Mais en fait, on a dû avoir au moins 5 générations d'instruments très différents.
Ouais.
Après, dans le détail, on en a eu plus, parce qu'en fait, je pense que comme tous les autres artisanats liés à l'art en plus, je pense que chaque décennie a apporté ses nouveautés. Mais c'est justement sur ce genre de sujet que le Centre de musique baroque de Versailles veut se positionner, parce que, ayant bien conscience que les musiciens ne peuvent pas posséder tous les instruments idoines pour tous les répertoires, nous, dans notre mission sur la musique baroque française, on veut justement créer un parc instrumental pour avoir à disposition des musiciens et des productions les instruments que eux n'achèteront jamais parce qu'ils sont trop spécialisés. Donc l'idée, c'est qu'ici, on fasse justement des instruments qui sont ensuite, qu'on peut louer, qu'on peut, selon le cadre, on fait des partenariats aussi pour les valoriser. C'est vraiment de compléter le parc standard que tous les musiciens auront, alors juste sur notre partie française, il faudrait que des Italiens, des Allemands et des Anglais fassent la même chose sur leur répertoire, pour éventuellement qu'on puisse, dans quelques années, se dire, on a, pour tous les 20 ans, à peu près le bon modèle de hautbois, le bon modèle de flûte ou le bon modèle de basson.
Donc, quand on dit hautbois baroque, c'est une appellation qui est vouée à être floue à vie et qu'il faut compléter.
De toute façon, en France, déjà, plein de mes collègues chercheurs vous diront que le baroque n'existait pas et qu'on parle de l'âge classique pour le baroque. Donc, de toute façon, un hautbois baroque, c'est compliqué à définir parce qu'en travaillant sur Attis, on s'est rendu compte que d'un point de vue organologique, mais aussi d'un point de vue de conception musicale, Lully est encore sur des systèmes post-Renaissance. C'est-à-dire que dans tous ses premiers opéras jusqu'en 1680, il utilise encore les vents, la majorité du temps, en consort, c'est-à-dire en famille complète avec des dessus, des basses et des parties intermédiaires. Et ça, c'est un geste qui vient de la Renaissance, en fait. C'est le consort de viol, le consort de flûte, le consort de hautbois. Et à partir de 1680-1681, pourquoi ? On ne sait pas encore, mais on bascule vers en fait, le trio à l'italienne de dessus et basse. Et donc le consort de hautbois avec des parties intermédiaires va définitivement céder la place au trio de hautbois et basson. Et d'ailleurs, le basson va s'imposer et se substituer à la basse de Cromorne. Et donc Lully lui-même, il a une première partie où finalement il récupère des ingrédients et des existants et des modèles d'ensembles instrumentaux très anciens hein, qui remontent pour le coup même au XVIe siècle. Et il va faire basculer les choses vers un autre système qui ensuite va se standardiser et va devenir une sorte de modèle baroque. Et lui n'a pas conscience de faire le futur modèle baroque. Hein,
donc, pour Attis, on est en 1676. Ça veut dire qu'on est avant ce retournement. On est encore dans les pratiques post-Renaissance de Lully. Et vous parlez alors d'un hautbois protomorphique.
Alors,
c'est quoi ce mot ?
C'est le terme consacré. En fait, ça veut dire que c'est le hautbois
avant sa forme définitive.
Avant sa forme définitive. Oui. Et d'ailleurs... Forme définitive, non, il n'y a pas de forme définitive puisqu'elle va changer encore en 1720,
et ne pas cesser
etc.
d'évoluer. Ouais.
Voilà, donc en fait, on est sur, disons, le premier hautbois qui a les caractéristiques générales de ce qu'on appellera le hautbois baroque. Ça tient notamment à la forme de l'instrument, à sa perce, à sa dimension, au fait qu'il soit démontable en plusieurs parties, et puis ensuite au système de trous et de clés qui va lui-même d'ailleurs se perfectionner.
C'est quoi la différence d'un hautbois façon Rameau 1720 par rapport à un hautbois tel que vous allez donc le jouer de 1680 façon Lully ?
Alors, pour vous répondre très précisément, il faudrait comparer des profils de perce parce que il y a...
C'est dans la perce que ça se différencie ?
Oui, il y a beaucoup de choses qui... Oui, bien sûr, même si l'aspect est aussi très différent, mais ça, c'est plus de l'ordre du visuel. Mais si on parle vraiment que de structure, il y a des éléments de Perse qui sont étonnants dans les instruments qu'on est en train de reconstruire, notamment le hautbois anonyme en ébène numéro E108, puisque comme il est anonyme, il porte un nom de catalogue dans le musée. Donc le E108, on l'appelle le E108, il a la particularité d'avoir à la fois une épaisseur de bois très fine et une chambre assez large. Enfin, la perce est assez large et une épaisseur de bois fine. Ouais. Donc à l'extérieur, ça ne se voit pas forcément, mais la réponse acoustique de l'instrument est fondamentalement différente. Et donc ça, plus un autre élément structurel particulier à notre travail, c'est d'avoir sélectionné ces instruments un peu archaïques qui possèdent des pavillons courts et des pavillons évasés et très ouverts vers l'extérieur. Ça donne une projection et une directivité, je dirais, au son, qui va être assez différente de ce que le hautbois va devenir ensuite en 1720. Et il est vrai qu'on a continué à la fin du 17e et au tout début du 18e à chercher des moyens d'adoucir encore plus le son du hautbois, parce que le hautbois s'est vraiment invité dans des ensembles instrumentaux qui devaient jouer en petite formation dans la chambre du roi. Voilà. Et notamment, ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'après ces instruments de la décennie 1680 qu'on a reconstruits, eh ben, on voit une décennie après, en 1690, les deux dessus de Cromorn ou hautbois, enfin c'est la même chose, ils portent le même nom, deux dessus de hautbois qui sont, y a deux charges en fait qui sont créées dans les petits violons, c'est-à-dire l'ensemble personnel de Lully qui se déplace dans le château et qui est vraiment l'ensemble couteau suisse à tout faire, qui fait à la fois les bals, les couchers, les levées du roi et qui va faire toutes sortes de divertissements. On voit que il y a vraiment une charge de hautbois qui est créée dans ce petit ensemble, ce qui veut vraiment dire que le hautbois est intégré dans quelque chose de beaucoup plus chambriste à cette époque-là. Et évidemment, la facture instrumentale va suivre ces évolutions d'usage.
Ah oui, ce qui laisserait penser que finalement Louis XIV en tant que souverain a davantage modifié la morphologie du hautbois entre le début et la fin de son règne par l'usage qu'il en commande que les compositeurs de cour eux-mêmes.
Ah, c'est une question qui est difficile à trancher. Et puis encore une fois, est-ce que c'est parce que les facteurs avaient, eux, fait une recherche sur un adoucissement du hautbois que le hautbois a eu l'autorisation de venir s'inviter dans des endroits où avant il n'était pas forcément bienvenu? C'est très difficile de détricoter tout ça.
N'empêche, en fin de règne, c'est plus un instrument d'intérieur qu'en début de règne.
Ah, ça, c'est clair. Louis XIV. Ouais. C'est clair. C'est clair, et puis c'est intéressant aussi, si on parle de la musique militaire, en fait, on observe que le hautbois, dans son héritage vraiment d'ensemble de plein air, a été utilisé dans l'armée de façon assez extensive, et qu'à partir d'une certaine époque, on le voit un peu disparaître des régiments militaires en tant que musique fonctionnelle, et surtout, chose étonnante, le hautbois porte une vraie connotation de paix. C'est-à-dire que quand on parle de la paix retrouvée après le conflit dans les tragédies en musique, on entend la douceur de nos hautbois. Et en fait, pourquoi ? Parce que le hautbois, en fait, a un glissement entre cet usage militaire très fonctionnel et un usage de divertissement royal où, en fait, il vient remplir un rôle d'évocation pastorale dans les tragédies en musique et d'instruments pour les bals. Donc, en fait, la paix égale le divertissement retrouvé et le bal. Et par conséquent, le hautbois devient une sorte de nouvel ingrédient de l'oisiveté et du divertissement, en vérité. Et donc, il y a ce très beau glissement, oui, entre le hautbois militaire et le hautbois du temps de la paix. Voilà. Et Florence Gétraud, qui est une des personnes avec qui on travaille dans le comité scientifique, qui est spécialiste d'iconographie, avait relevé que quand la cour s'installe à Versailles entre les années 1680 et 82, les décors sculptés qu'on trouve dans le château sont très emblématiques de cela, puisque dans le salon de la guerre, vous ne trouvez pas un seul hautbois représenté sur les blasons, alors que le salon de la paix en est truffé.
Les exemplaires de hautbois E108 qui a été copié par Olivier, ici présent. Ouais. Voilà. Mmh. Donc c'est un hautbois qui est... Tous les instruments sont au musée de la musique et ces deux instruments sont donc en ébène, avec seulement deux clés en argent. Ouais. Et ils ont... c'est intéressant parce qu'il y a quand même quelques similarités de facture entre ce dessus de hautbois qui a été sélectionné et l'autre. Et c'est cet autre hautbois qui est en buis au musée, avec des décorations d'ivoire qui sont montées avec
Je crois que tu as utilisé quoi? C'est de l'os ou c'est une matière
C'est substitué à l'ivoire qui est synthétique.
C'est ça. Et donc aussi,
c'est un polyester, en fait.
Exactement. Mmh. Et Alberto, en Italie, a fait aussi un travail avec eux. Avec une autre matière.
Qui met bien aussi.
Voilà, on est dans l'imitation. Et donc, ces deux instruments ont la particularité d'avoir des pavillons assez courts, qui en fait appartiennent plutôt à cette première génération du hautbois baroque. Et c'est des instruments qui ont été très peu copiés et qui en plus ont cette particularité de ne pas avoir de lèvres internes dans le pavillon comme ont les instruments plus tardifs. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un léger repli dans le pavillon qui a un rôle acoustique. Voilà. Donc on est encore sur cette idée d'un hautbois très ouvert. Voilà. Et c'est ce qui, je pense, participe à l'acoustique générale de l'instrument. Mais ça, tu en parles finalement bien mieux que moi, je pense, Olivier, toi, en tant que facteur.
Pas forcément.
Non, mais je veux dire, ça a un rôle quand même sur la finition du son.
Olivier Clémence, quand on est facteur d'instrument, on est pris entre plusieurs feux. Il y a les sources historiques, il y a ce qu'ont envie de faire les musiciens, il y a le goût qu'on peut avoir pour telle ou telle couleur. Vous êtes en arbitrage permanent entre les différents ou vous avez le parti pris de la source?
Non, c'est une très 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 bonne entrée en matière, on va dire. Effectivement, c'est peut-être un des côtés le plus intéressant, c'est que on est là à la fois pour réussir un processus de fabrication qui repose sur des principes communs au travail des principales matières, c'est-à-dire le bois, donc le buis et l'ébène, on va dire, principalement. Certains substituent à l'ivoire, etc. Et puis, une fois qu'on maîtrise le côté pratique, le côté donc artisan de fabrication, tout de suite après, on est directement dans l'univers de communication, de choix, on peut dire principalement des partis pris.
Oui.
Et il faut donc harmoniser les partis pris. Et c'est un sujet qui est passionnant. On est au cœur de ce sujet-là, puisque justement le projet de réalisation de consort pour Atis de Lully à Versailles, c'est toutes sortes de partis pris, en fait. Donc, partis pris de diapason, partis pris de style, de période musicale, d'utilisation. Là, c'est la démarche qui a été suivie par Neven Lesage et par toute l'équipe, d'utiliser certains doigtés qui sont assez peu utilisés dans les ensembles traditionnellement, les ensembles baroques, avec ce qu'on appelle les doigtés courts, qui sont pas mal utilisés pour les aigus, etc. Et donc, la question que j'aborde de plus en plus, puisque je fais de la facture depuis longtemps, mais par phase, c'est quel parti pris on utilise en partant des plans originaux, des plans originaux qu'on retrouve,
oui, hein,
qui sont faits généralement par des facteurs ou par des gens qui se passionnent pour l'instrument, et ensuite, comment on le traduit?
Parce que là, vous êtes quand même dans une situation que je crois inédite, c'est qu'on vous fait des copies sur imprimante 3D à partir d'instructions prises en tomophotographie, ce qui vous donne une espèce de point de départ archi-scientifique. Et de là, vous devez... Oui, bien sûr. Donc vous allez commenter archi-scientifique, et puis d'autre part, comment est-ce que artisanalement vous allez réussir à coller à ça, quoi?
Alors il y a une confusion qu'il ne faut pas faire, c'est que moi, mon travail, il est parallèle à celui qui a été fait sur les réalisations d'instruments 3D. Les copies en 3D qui ont été faites servent à creuser, à révéler, à découvrir certains aspects de l'instrument. Mais nous, on est parti de plans qui ont été réalisés, mesurés. En l'occurrence, je vais le citer parce que c'est quelqu'un qui est justement impliqué dans le projet. C'est Lucas van Elsdingen, qui est un facteur hollandais, qui a fait un relevé très précis. Et c'est à partir de ces plans que j'ai fait le relevé,
d'accord,
que j'ai fait la réalisation. Et l'autre plan qu'il faut citer aussi, puisqu'il y en avait deux, il y avait deux relevés. Un beaucoup plus ancien de 1987, fait par deux personnages très importants qui ne sont plus vivants malheureusement aujourd'hui. C'est Marc Ecochard, le grand facteur de hautbois, et Bruce Haynes, le grand interprète qui fabriquait aussi des instruments et qui est quelqu'un, c'est le grand pape du hautbois. Avec des points communs dans ces relevés, mais des choses un petit peu divergentes aussi. Donc c'est là que le parti pris arrive. C'est que moi, j'ai fait des choix. Donc après, on pourra en parler un petit peu. Mais
parlons-en, parce qu'en fait, vous ne pouvez pas travailler sans parti pris. Ça devient votre horizon de travail.
C'est constamment, oui. Les partis pris. Donc, il y a les relevés. Et alors, pour être bien précis, pour être complet, le travail qui a été fait donc, d'une réalisation, une copie 3D de l'instrument, sert à comprendre des choses, à révéler des choses. Mais moi, j'ai presque polémiqué avec Neven Lesage. Attention, il y a un côté scientifique. Mais quand on fait une copie 3D, on n'obtient pas un instrument parfait qui correspond au relevé qu'on a fait. Le relevé tomographique, donc à partir de rayons X, qui ont été faits d'ailleurs au musée d'histoire naturelle, c'est très précis. Voilà. Mais la réalisation, donc moi j'ai une phrase concernant tout ce qu'on fait à partir d'un matériau, quel qu'il soit, c'est que la matière s'exprime. Comment considérer ce qu'est l'objet, la copie 3D ? C'est du plastique, c'est un plastique, c'est un choix de plastique, il y en a plusieurs hein, quand on fait des copies, je ne suis pas spécialiste dans ce domaine-là non plus. Et quand l'imprimante 3D réalise la version avec le matériau qui est du nylon, du plastique, etc., ça ne fait pas un instrument parfaitement aux cotes. Ça change les cotes.
Voilà. Parce que ce n'est pas le même matériau.
Mais parce que la matière s'exprime et que quand on chauffe un matériau, il ne reste pas sagement dans la côte qu'on lui a demandé, il bouge un peu, voilà. Donc on a un instrument qui est plus ou moins proche, mais comme en acoustique, une toute petite variation peut avoir des incidences sur plein de notes, il suffit qu'une côte change dans le haut de la perce, par exemple, du corps du haut, et toutes sortes d'autres notes sont impactées, comme on dit.
Entre les hautbois à l'heure de 1676, qui est l'année de Datis, et les hautbois de 1720, est-ce que la perce intérieure a changé alors ?
Alors elle change tout le temps.
Elle change beaucoup plus que juste entre...
Elle change tout le temps parce qu'en fait, voilà, les notions principales, c'est qu'il y a des écoles, ce qui est passionnant, hein, parce que je suis en train de faire un travail en ce moment sur les hautbois, enfin je fais un travail... personnel. Le travail a déjà en grande partie été fait et je les cite parce qu'ils sont évidemment c'est des grands personnages. C'est Marcel Poncel et Stéphane Verdeghem qui ont fait tout un travail pour révéler le travail qui a été fait de facture à Leipzig. Et ce qu'on découvre en sociologie, enfin en travail des corporations, etc., c'est qu'il y a des écoles. Et les écoles, c'est évidemment, c'est local, c'est-à-dire qu'il y a les villes. Il y a ce qu'on faisait dans une ville, et d'un facteur à un autre, il y a des statuts différents, il y a des moyens techniques différents. Je donne un exemple pour comprendre tout ce qui s'y passe, et je vais donner après un exemple technique très, très, très précis qui montre pourquoi c'est pareil, et que ça peut être pareil et très différent en même temps. C'est qu'il y a des grands facteurs, donc qui vendent beaucoup d'instruments, qui sont réputés, qui ont un outillage, qui ont les moyens de créer un outillage de très haut niveau. Et puis, il y a d'autres facteurs à côté qui n'ont pas les mêmes moyens. Alors, il y a deux approches. Le grand facteur a ses outils. Il les utilise de façon très précieuse, c'est-à-dire qu'il les soigne, il ne les use pas trop, il fait attention. Et il les prête ou pas. Voilà. Et d'autres facteurs à côté, par exemple, ils peuvent être à deux ou trois à se prêter les instruments, ce qu'on appelle les perces, les alésoirs, entre eux. Voilà. Premier exemple. Pourquoi ça peut différer beaucoup, beaucoup, en ayant des modèles qui sont proches. Deuxième aspect technique et intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on utilise principalement des alésoirs, donc des cônes, des cônes en métal, qui servent à créer la perce à l'intérieur. Et à l'époque, je pense qu'il y avait ce genre d'outils, mais par contre, il y avait ce qu'on appelle des cuillères, donc qui travaillent sur une portion, seulement sur une portion du hautbois. Et donc, quand on passe une cuillère, on peut le passer de toutes sortes de façons. Donc le résultat n'est pas du tout le même. Et selon qu'on est précis ou pas, selon qu'on est bien réveillé ou pas, tel jour, etc., ben l'instrument est très différent. Voilà.
Vous êtes en train de m'expliquer, si je comprends bien, Olivier Clémence, qu'il peut y avoir encore plus de différence entre un hautbois de 1780 de tel facteur et un hautbois de 1680 aussi, mais de tel facteur, voilà. Qu'avec un hautbois de 50 ans plus tard.
J'ai répondu qu'à une partie de la question.
Oui.
L'origine de la question était plus intéressante d'une certaine manière. Donc ça évolue tout de sang, effectivement. Donc, il y a des écoles, comme dans tous les domaines, en fait, il y a des maîtres, il y a des gens qu'on suit scrupuleusement, avec admiration. Il y a des gens qui sont plus des exécutants, des gens qui sont plus des créatifs. Voilà, donc il y a déjà ce phénomène-là. Et après, les écoles. Alors, les écoles, je ne vais pas tout expliquer aujourd'hui, ce n'est pas le moment, mais par contre, c'est très intéressant, très important qu'on s'intéresse tous qu'on soit justement plutôt observateur de ce qu'on fait ou qu'on soit acteur, donc en tant qu'interprète, etc. Il faut absolument regarder ce qui se passe donc dans tout travail qui est fait et comment ça évolue. Quoi.
Hop. Voilà, tu me diras pour l'indice de conicité
oui,
de ça.
Oui, comment on calcule ?
Que j'aimerais faire la même chose.
Oui.
Mais en 60, en longueur 60.
Très bien. Bah, je te donnerai, il y a une formule.
Oui, oui.
Ben, pour
ouais,
calculer
c'est diamètre, c'est ça ? Diamètre bas, moins diamètre
moins,
du haut,
voilà.
Par deux. Je peux tout diviser par la hauteur.
Voilà. Et c'est tout, non ?
Ouais.
C'est
ouais.
Multiplié
ouais.
Par deux, divisé par la hauteur, c'est ça ?
Non, divisé par 2.
Oui, et divisé
et
aussi par
2. Et redivisé par la hauteur.
Oui, donc c'est 2 fois la hauteur.
Et après, tu obtiens un nombre.
Voilà, 0, 0,58, 0,2. Je sais pas, mais après, t'as vraiment, tu vois. Moi, je le fais pour chaque tube, en fait. Parce qu'en plus, chaque tube fait à la main est toujours un petit peu différent. Donc, je vérifie.
Je t'ai mis les roues de là, Christophe.
Ah, tu les as sortis.
Il y a Christophe qui va se mettre là.
Je viens de les sortir
et
de l'eau.
En même temps, tu disais que.
Merci, monsieur.
En fait, je connais cette dimension de ça.
Voilà.
Je crois que tu connais cette dimension. Pas de dimension, Neven, de ça.
Non, mais elles sont sur Internet.
Ouais, voilà. Je vais les noter celles-là. Oh, on n'a pas les dimensions du trapèze.
Non,
c'est pas grave.
Trouver, je pense, parce qu'il n'y a pas de double conicité. Donc,
tu fais tes mesures par rapport au diamètre, c'est donc tu peux aussi.
Tu sais que le diamètre, ça suffit. Bah oui,
le problème, c'est que le diamètre du haut, il est ovalisé, donc c'est pas si évident.
Ouais, mais tu mesures le plus petit de l'un, tu fais la moyenne.
La moyenne.
Pas de problème.
Oui, bah oui, avec juste avec le diamètre, ça suffit. Ouais. Donc,
et donc
okay.
Tu,
quand je vais trouver l'indice.
Si tu veux garder ce même diamètre de sortie en disant qu'il est assez gros, que tu ne veux pas plus gros, tu vas jouer et que tu aimes le diamètre d'entrée. Et celui-là, on ne peut pas beaucoup changer quand même. Il n'y a pas énormément de marge de manœuvre pour le diamètre d'entrée. Et ben, il faut juste raccourcir un peu. Et après, tu vois avec. Je pourrais te dire, moi, quelle est la conicité qui marche bien pour les doigts courts. Et tu peux voir avec ce matériel qu'est-ce qui peut fonctionner. C'est dommage, là, j'ai pas mon manche et j'ai pas mes carnets.
Et tu penses qu'un matériel, une palette plus courte, ça. En fait, moi, j'aime bien jouer sur du matos plus petit, sur des palettes plus petites.
Ah bah oui.
Mais du coup, qu'est-ce que je dois faire pour le tube ?
Ça change rien. À mon avis,
plus large
dans
plus
un premier temps d'expérimentation, tu n'es pas obligé de te poser la question des palettes. Tu fais ce qui est confortable pour toi. Et si tu fais un grattage plus court et en essayant d'avoir vraiment une régularité pour avoir pas trop de bosses, déjà, ça va changer encore par rapport à tes palettes.
Ouais, mais si je fais plus court... tu vois, là, par exemple, je fais vraiment plus petit.
Tu verras.
Pas en grattage.
Il n'y a pas de...
Et ça marche.
Ça marche pas, en fait.
Du coup, sur ces parties-là, sur les...
Ça veut dire que dans votre temps de travail de l'instrument, cette partie de recherche de comment bien confectionner un... C'est beaucoup, c'est... Quelle proportion ?
Alors, elle est assez grande. Alors, le hautbois est quand même un instrument, c'est pas du clavecin ou de la viole de gambe, c'est un instrument à vent quand même assez fatigant. Donc, c'est vrai que c'est pas un instrument qu'on pourrait jouer 15 heures de suite dans la journée. Donc, finalement... la vie est assez bien faite, c'est-à-dire qu'on travaille le hautbois et puis après on fait une petite pause, on fait nos hanches, on fait nos bocaux. Alors c'est sûr que, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on est hautboïste, on est aussi bricoleur, facteur. Voilà, il y a beaucoup de... On est aussi un peu mathématicien, physicien. Voilà, il faut pouvoir manier un peu tout ça pour régler son instrument. Et ça, c'est vraiment... on a un rôle essentiel à jouer là-dedans. Et plus les instruments sont anciens, plus les instruments sont uniques, plus chaque cas est particulier et plus il faut adapter le matériel.
Et ça, c'est quelque chose que vous saviez quand vous avez commencé le hautbois ?
Alors non, pas du tout. J'ai découvert, après on tire des fils et puis on cherche plus loin. Et voilà, il s'avère que c'est passionnant et puis que plus on fait, plus on cherche, plus on comprend des choses. Et après, c'est sûr que grâce à des projets comme celui-ci, d'une grande envergure, on a ce temps, cet espace et ces réunions pour échanger. Donc ça, c'est sûr que c'est très, très riche pour nous. Après, c'est des recherches qu'on fait seules, mais aussi dans la petite communauté des hautboïstes anciens. On est beaucoup en lien avec les facteurs aussi. On aide souvent les facteurs à accorder, à trouver des solutions pour les instruments.
Parce que là, de ce que je comprends, donc il y a une sorte de révolution épistémologique qui est en train de se produire autour de cette production d'Atis, c'est que vous préférez changer l'instrument que de changer les doigtés historiques, là où depuis quelques générations de musiciens baroques, on s'était habitué à plutôt changer les doigtés que complètement perfectionner les copies d'instruments.
Alors, c'est vrai que, en fait, le hautbois et les instruments avant en général, mais c'est vrai que le hautbois est un instrument qui a été redécouvert depuis peu de temps finalement, contrairement au clavecin, à la viole de gambe, qui sont d'ailleurs enseignés dans les conservatoires. Les hautbois anciens, c'est encore une discipline assez rare, et c'est aussi notre mission à nous de transmettre ça. Donc c'est vrai qu'il y a eu, voilà, il y a vraiment des pionniers qui ont redécouvert l'instrument, qui ont fait beaucoup d'essais, qui ont fait des propositions à partir souvent justement de leur bagage plus moderne, et le son du hautbois et la manière de jouer le hautbois était un peu voilà présenté comme ça, accepté du grand public et est devenu un peu la manière de jouer conventionnelle. Mmh. Et c'est vrai que plus on tire des fils, plus on creuse les pistes, plus on se rend compte qu'il y avait sûrement plein de manières de jouer, que la manière de jouer qu'on connaît aujourd'hui n'est pas forcément la vérité de ce qui se faisait avant. Voilà, donc c'est pour nous un terrain toujours d'expérimentation.
On arrive à faire un Atis en 2024 avec ce qui sont donc des copies d'instruments. Il y a, on peut dire, une tradition de la copie d'instruments. On en faisait déjà il y a, je sais pas, 75 ans, non ?
Oui. Donc, au départ, les pionniers dans les années 50 ont utilisé des originaux. Ceux qui étaient en état de jeu, on l'entend sur les premiers enregistrements, ça sonne très bien, c'est très beau. Donc il y a Michel Piguet, par exemple, ouais, qui avait des hautbois originaux, Hans-Jürg Lange, qui joue avec lui au basson, avait un basson original. Très vite, bien sûr, ils ont fait des copies, il y a très peu d'originaux, et on ne peut pas les jouer à l'infini, ça s'abîme, les instruments avant.
Mais les copies n'avaient pas de tomographie, donc n'étaient peut-être pas aussi précises.
D'abord, elles n'étaient pas précises, mais surtout, le problème, c'est que pour jouer les originaux, dans le cadre du hautbois et du basson, les instrumentistes n'avaient pas d'anche d'époque.
Ouais.
Et donc, ils ont utilisé le matériel d'anche qu'ils ont réussi à mettre au point. Et ce matériel ne leur a pas permis de jouer les doigtés originaux.
Donc, ils ont adapté leurs doigtés pour pouvoir compenser.
Voilà, ils ont créé des doigtés, notamment harmoniques pour l'octave aiguë,
ouais,
qui sont des doigtés longs, harmoniques, qui ne sont pas censés être utilisés comme doigtés de base. Et quand ils ont fait des copies, finalement, les gens ont fait des copies qui fonctionnaient avec les doigtés modifiés. Et non pas avec les doigtés originaux, puisqu'on ne savait pas les faire.
Ah oui, c'était des copies de mauvaises copies, en fait. Enfin, non, de...
C'était des copies d'une pratique réinventée.
C'est ça.
Donc, les copies ont été faites pour aller avec les anches qu'on pourrait appeler modernes, qui n'avaient pas du tout, qui n'avaient pas été abouties.
Ouais.
Voilà. Les pionniers n'avaient pas eu le temps d'aboutir la recherche sur les anches ou même de la faire, tout simplement. Donc, ils avaient joué leurs originaux en modifiant les doigtés. Et au moment où il fallait faire des copies, ben c'est ça qu'on a fait, c'est des copies modifiées de la perce, des trous, de jeu, etc. Pour aller avec les anches qu'on connaissait, qui n'étaient pas historiques, et ces doigtés réinventés. Et ça, c'est, ben on en est resté là, jusqu'à aujourd'hui.
Ah oui, ça s'est complètement instauré.
Ça s'est complètement instauré. Donc c'est ensuite, ce qui s'est passé, c'est que les pionniers, eux, ont continué à chercher... Bruce Haynes a travaillé jusqu'à ce qu'il arrive à faire des anches qui lui permettent de jouer les doigtés historiques. Mais c'était trop tard. C'est-à-dire que la pratique s'était déjà établie sur les doigtés modifiés avec les anches modernes. Donc quand lui, dans les années 90, avait pu avancer, quand Michel Piguet, justement, il y a eu un fameux congrès à Utrecht en 93 avec des conférences, où Michel Piguet a dit « Voilà, j'ai utilisé ces doigtés modernes, mais en fait, maintenant, il faut avancer, il faut aller aussi...
Ah, il demandait lui-même qu'on referme la page qu'il avait ouverte, en
ah,
quelque
oui, oui.
sorte, pour
avancer. Il avait 62 ans, donc il n'était plus en mesure de faire ce travail, mais il a dit, il faut le faire. Il faut faire attention que ce n'est pas du tout une rigueur épouvantable de vouloir être totalement authentique. Non, c'est parce que c'est avec ce matériel-là qu'on peut aller vers l'expressivité, la flexibilité et un jeu expressif et chatoyant.
Oui, c'est pas par perfectionnisme de conservation, c'est vraiment. Oui, c'est
non,
ça,
non, ouais. C'est parce que c'est ce matériel-là dont on a besoin. Et il y avait aussi un grand chercheur, Paul White, pour les anges de Basson, qui avait fait une thèse très intéressante sur les anges anciennes de Basson, et qui a arrêté, qui a changé de métier. Donc, il y a eu vraiment, au moment où les recherches ont enfin été poussées jusqu'à arriver à savoir suffisamment de choses pour faire ces anges historiques, ceux qui ont voulu aller dans cette voie ont été marginalisés et n'ont pas pu proposer finalement en pratique ce qu'ils avaient cherché.
Alors ça, c'est dans quel sens ça va depuis le 21e siècle où on se trouve, c'est-à-dire la conscience qu'on a que c'est par la flexibilité des outils qu'on va reconquérir la vélocité de l'époque, sauf que c'est une vélocité dont on a perdu une part de la trace.
Oui et non, parce que il y a quand même une tradition ininterrompue jusqu'au bois moderne. Donc si on écoute finalement les grands hautboistes modernes, on n'est pas coupé du hautbois 18e. Et on a aussi des enregistrements anciens de hautbois, très beaux, de l'école de Georges Gillet, début 20e, ou même de l'époque de Francis Poulenc. On a un enregistrement avec Roland Lamorlette, qui enregistre le trio de Poulenc pour hautbois, basson et piano avec Poulenc au piano. Et là, vous entendez un jeu de hautbois très expressif, très fin, extrêmement articulé, très flexible. Donc on peut vraiment avoir une idée, je dirais, en remontant à reculons un petit peu. Le fait de jouer des anges très résistantes sur le hautbois, c'est un phénomène récent. Et ça fonctionne sur le hautbois moderne parce que le hautbois moderne a un clétage qui fait que chaque note est facilité par l'ouverture d'une clé. C'est pas le cas des hautbois sous l'ancien régime à deux clés. Donc utiliser une ange très résistante, ce qu'on peut faire sur un bois moderne, mais malgré tout c'est un changement esthétique, n'est pas possible sur les hautbois anciens. Et malheureusement on n'a pas réussi à dépasser ce problème pour des questions d'esthétique sonore, d'habitude de jeu. Et donc pour le moment le jeu des hautbois baroques se fait avec des doigtés modifiés et des instruments modifiés. Donc un des grands enjeux du projet d'ATI, c'est d'arriver à inverser les choses, de dire on ne modifie pas l'instrument, on joue les doigtés d'origine, et il va falloir modifier nos habitudes au niveau de l'ange. Donc moi je l'ai fait à titre personnel, et c'est ce qui m'a amené à devenir musicologue, parce que je faisais tellement de recherches. Je suis toujours oboïste, mais quand je joue du hautbois, c'est pour appliquer mes recherches, donc c'est dans un cadre... J'organise le concert.
Ouais. Vous passez en mode démo, en quelque sorte. Mais alors, vous, étudiant les anges, qu'est-ce que vous en avez à faire de la différence entre le hautbois protomorphique et le hautbois baroque?
Alors, c'est très intéressant. Le hautbois protomorphique, c'est un mot un peu bizarre.
Ça, c'est très scientifique, ça veut dire quoi?
Ah, c'est parce que Bruce Haynes, qui était un des très grands pionniers du hautbois baroque et qui a étudié cette période, a été inspiré par, la biologie. C'est quelqu'un qui s'intéressait, par exemple, je crois qu'il avait redécouvert une espèce de fourmi qu'on ne connaissait pas encore. Enfin, donc, je crois que ça vient des mondes des sciences naturelles. Mmh. Et donc, c'est, pour dire les choses plus simplement, c'est un hautbois de transition. Donc, au 17e, la première moitié du 17e, les hautbois sont des instruments qui sonnent haut, donc fort. À haute voix, c'est pour dire fort. Donc, c'est un instrument en bois qui sonne fort. De type, aujourd'hui, on retrouve ces instruments d'extérieur dans la zurna, le jeu de zurna. Mais c'est des instruments qui sonnaient très, très forts. On ne pouvait absolument pas les jouer en intérieur. Et le hautbois protomorphique, c'est juste pour dire, c'est une forme transitoire du hautbois pour se transformer en ce qu'on appelle aujourd'hui le hautbois baroque, qu'on n'appelait pas hautbois baroque à l'époque, mais en